écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Bienvenue dans la suite d'un podcast, ce long podcast consacré à l'Andalousie avec Mehdi Rouilguet. Salut Mehdi, hein, on est toujours ensemble.
Salut Reda, voilà, tout plaisir pour moi.
Enregistré dans la foulée, diffusé à une semaine d'écart, mais enregistré dans la foulée. Dans la première partie, on a évoqué l'histoire de l'Andalousie entre l'Andalus, pour respecter la toponymie que tu proposes, entre l'arrivée de Tarek Nouzied 711. On est parti jusqu'au milieu des années 1600, l'expulsion des musulmans.
Des Morisques, à l'époque.
Des Morisques, ouais. On a raconté tout ça, on a raconté les différentes phases, la phase de conquête, la phase Omeyyade, la phase Moravide, la phase Almohade, la phase de Grenade. Cet objet, disons, est fini. Et maintenant, on va s'intéresser à comment il va être raconté, comment il va être même utilisé. Cette énigme historique, voilà, puisqu'il y a des historiens qui parlent d'énigme historique. Quelle est cette énigme historique? Quelle est cette zone bizarre, bout d'Orient au milieu de l'Occident? Comment il va être décrit, utilisé? Alors déjà, il faut quand même rappeler que dans la suite de l'histoire, l'Espagne va, dans la foulée de cette reconquista, avec les guillemets, elle va avoir une énorme puissance qu'elle va accumuler, en particulier grâce à ses conquêtes américaines, c'est bien ça. Et elle va devenir peut-être la première puissance du monde, tout simplement.
On dit, avec la conquête des Philippines, dans la seconde moitié du XVIe siècle, que c'est le premier empire de l'histoire du monde où le soleil ne se couche jamais.
Voilà, donc il fait le tour du globe. Beaucoup d'argent, beaucoup de puissance.
Beaucoup d'or.
Beaucoup d'or. Exactement, beaucoup d'or, beaucoup d'histoire, hein, avec des S. Et dans cette histoire, l'Andalousie n'existe pas, évidemment, l'Andalousie n'existe pas, le musulman n'existe pas. Au contraire, il est présenté comme celui qu'on a eu la bonne idée d'expulser, et qui est un autre exploit à mettre au crédit de l'Espagne, à ce moment-là, c'est-à-dire on a expulsé...
Au XVIIe siècle, enfin entre 1560 et 1660, on appelle communément cette époque le siècle d'or. Siècle d'or, tout point de vue d'abord, avec l'or généré grâce aux conquêtes et l'exploitation
Minute d'autopromo
de l'Amérique.
Allez écouter le podcast qu'on a consacré à l'or, un podcast
formidable,
exceptionnel,
extraordinaire.
Je ne sais plus qui l'a fait,
c'est ça.
J'ai du mal à m'en rappeler, mais c'est un podcast en or.
Voilà,
et ensuite,
vient avec le reste, bien entendu, le roman, pas exactement qu'on ne peut pas rappeler au monde, donc bien sûr, dont Don Quichotte de Cervantes et les novelas ejemplares, donc Cervantes considéré comme le des plus grands auteurs de tous les temps, tout le théâtre du siècle d'or, hein, Tirso de Molina, Calderón, qui sont des auteurs extraordinaires. Et là où je veux en venir exactement...
Cervantes, parenthèse, qui était un soldat.
Oui, soldat manchot, ouais, qui a perdu son bras à la bataille de Lépante, contre les Turcs, et qui a été retenu surtout, et c'est ça qui est...
À laquelle a participé également...
Très important.
Abdelmalek Sadi.
Et très important, qui est retenu pendant des années prisonnier à Alger. Et c'est au cours de ces années d'emprisonnement qu'il va très certainement mûrir cet ouvrage et cette œuvre, en fait, exceptionnelle, et qui est l'une des plus remarquables qui soit au monde. Alors attention, chaque grand État-nation estime qu'il a inventé le roman. Bien sûr, si vous allez voir les Italiens, ils pensent que c'est Dante.
Oui, avec son enfer.
Ce n'est pas l'ombre d'un pli. Les Espagnols, c'est le Quichotte, hein, donc Quijote. Alors que même que pour les Français, c'est plutôt Flaubert, hein, qu'on fait les cours donnés au Collège de France par Bourdieu. Ouais. Flaubert est l'invention du roman. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Algérie, on enseignait le fait que c'est Apulée, voilà. Donc, qui est un auteur du IIIe siècle, qui a écrit en latin, et qui était gréco-latin de langue, mais aussi qui connaissait les langues berbères certainement, parce qu'il dit que ses deux parents étaient Garamantes et Gétule, c'est-à-dire en fait libyque, des ancêtres des Berbères. Et il a écrit un ouvrage exceptionnel qui peut être peut-être considéré comme le premier road movie de l'histoire, qu'on appelle l'Andor, et qui est traduit en arabe sous un titre qui ne rend pas du tout, puisqu'on l'appelle en arabe « Himal Dehebi », ce qui ne rend absolument pas, je crois, la portée du titre originel, naturellement.
D'accord, donc... oui, alors donc on parlait de Cervantes, hein, on est parti
Oui, alors sur, je disais que, donc, comme c'est la première puissance européenne et puissance européenne du monde, au sens plein entier du terme, sans se payer de mots, eh bien, les Espagnols ont la réputation, ce sont les stéréotypes qui collent un peu au basque des Espagnols, c'est l'idée qu'on perçoit, notamment en France, Mais c'est vrai aussi en Italie, on perçoit les Espagnols, et a fortiori en Angleterre, parce qu'il y a un siècle de rivalité espagnole et anglaise. Attention, les Anglais sont vécus comme le grand autre, comme le grand méchant, l'autre côté du miroir. Hein. C'est pour ça que Cervantes écrit parmi ses nouvelles l'hispano-anglaise. Parce que c'est sûr, c'est tout à fait contradictoire. On ne peut pas être espagnol et anglaise dans sa conception du monde. Et on dit que les Espagnols sont froids, manipulateurs, calculateurs. Et ce n'est pas pour rien que l'un des auteurs les plus appréciés de cette époque, pratiquement jusqu'au XIXe siècle et en passant par Nietzsche, c'est Baltasar Gracián. Donc Gracián, c'est un Aragonais, c'est un Espagnol, qui est un peu l'équivalent, toute proportion gardée, de Machiavel. Et d'ailleurs, qui est bien plus lu, plus apprécié que Machiavel, c'est-à-dire qu'il donne dans son Tratado de Agudeza, hein, son traité aussi de l'ingénio, comment se comporter à la cour, comment être un homme de cour, comment être un homme plein entier, c'est-à-dire tout à la fois avec un fond quand même, et la ruse, avec une éloge de ce qu'est le pan, puisque le pan, vous voyez, la tosse, il montre ce qu'il est, la démonstration, et c'est un ouvrage exceptionnel quand même. C'est pas pour rien qu'il a suscité l'admiration. Et vous voyez, ensuite, très tôt traduit, d'ailleurs en italien, puis en italien, en français, et qui sera ensuite lu par toutes les élites européennes, par exemple Nietzsche ou Schopenhauer vont dire le plus grand bien de cet ouvrage-là. Et si je mets en lumière, j'essaie de mettre en évidence ces stéréotypes, froids, manipulateurs, calculateurs, vous voyez bien qu'on est juste à l'exact opposé des stéréotypes qui vont plus tard s'imposer au XIXe siècle, à la période romantique, qui font de l'espagnol un être sanguin, irréfléchi, l'homme qui...
Passionné,
qui use du couteau pour un oui ou pour un non, qui est en fait complètement mu par ses sentiments, par ses passions. Et évidemment, on arrive là au XIXe siècle, au début du stéréotype qui réduit l'Espagne à la corrida et au flamenco et qui amène petit à petit à ce que l'Espagne devienne, à partir du XXe siècle, donc à partir du siècle dernier, la salle des fêtes de l'Europe. C'est un petit peu ça l'idée, vous voyez, juste le parcours. Et dans cette évolution, il va y avoir, en fait, une réévaluation totale de l'histoire d'Al-Andalus et de la valeur qu'on lui accorde.
Alors, comment se fait cette réévaluation? Elle se fait quand déjà? Elle se fait par qui? Et elle se fait dans... Quel est le mécanisme de cette réévaluation?
D'abord, comme tout le reste, en Europe, à cette époque-là, ça va venir de la France. En effet, la France se substitue à l'Espagne en tant que puissance prépondérante en Europe, à partir du traité des Pyrénées, donc qui date de l'année 1659. Et petit à petit, au siècle des Lumières, Voltaire, il va, en fait, ça date un petit peu d'avant, mais c'est surtout lui qui va faire accroire auprès du grand public européen ce qu'on appelle la légende noire de l'Espagne. L'Espagne est peuple génocidaire des Indiens, peuple esclavagiste, peuple de l'absolutisme,
de l'Inquisition,
toutes sortes de stéréotypes. Et petit à petit, on en vient au reproche d'avoir complètement écrasé, j'aime bien le terme espagnol, aplastar. Aplastar, ça veut dire véritablement aplatir, écraser les minorités juives et musulmanes. Donc évidemment, c'est cette idée. Et sans doute, Voltaire, notamment dans la partie la plus historique de son ouvrage, Les Sessions les Mœurs, a beaucoup fait, on a du mal un peu à s'imaginer ce qu'a été l'influence de Voltaire en fait en Europe à ce moment-là, pas seulement en France, naturellement, et pour dire tout le mal qu'il pense de ce qu'on appelait à l'époque la Reconquista, c'est-à-dire l'idée que la Castille aurait complètement chassé les Maures. Ça, encore, d'un point de politique, c'est bien, il trouve, mais ensuite de les avoir expulsés, ça, c'est un crime impardonnable. Parce qu'il commence à penser l'histoire en termes de continent, c'est-à-dire, évidemment, qui est l'islam sur le continent africain, ça, c'est tout à fait normal. En revanche, l'idée que, par exemple, des Maghrébins aient cherché, avec les Almoravides et les Almohades, à intervenir en Espagne, puisqu'il parle d'Espagne, et bien sûr, c'est à partir de ce précédent voltairien qu'au XIXe siècle va être inventée l'expression, qui est à l'origine complètement antithétique, d'Espagne musulmane.
Alors, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai lu dans tes textes, Voltaire règle également ses comptes avec son clergé à lui, c'est-à-dire en glorifiant, on a envie de dire, c'est un peu multiculturel, où les musulmans, les juifs et les chrétiens vivent dans le même espace, il en profite pour critiquer son espace à lui, où l'Église, enfin où il combat l'Église en vérité, il utilise l'Andalousie pour combattre son Église, non?
Tout à fait, c'est-à-dire que l'expulsion des juifs et des musulmans est l'expression la plus achevée et le témoignage de l'ignorance, de l'obscurantisme, du clergé, ouais, de l'Église. Ouais. Et donc, de son point de vue, c'est l'infâme, c'est son expression, c'est l'ennemi à abattre plus que tout. Alors, bien sûr, à l'époque, on considère que l'absolutisme, avec toutes les reines de France qui sont d'origine espagnole, plus le modèle espagnol, hein, puisque, attention, une grande partie du siècle classique français, a commencé par Molière et son Don Juan, prend modèle sur l'Espagne. Donc, on pense que ce modèle, au XVIIIe siècle, a été un mauvais modèle, puisqu'il a amené avec lui eh bien, cette idée de l'extrémisme, entre guillemets. On n'aurait pas dit extrémisme à l'époque, mais au moins de l'intolérance.
L'intolérance,
c'est plutôt ça.
Donc ça part de Voltaire, et comment ça se décline ensuite?
Ça se décline et ça s'accélère beaucoup à partir du moment où l'Espagne, deux choses, subit l'occupation française pendant les guerres napoléoniennes, on est là au tout début du 19e siècle, et perd en même temps son empire américain. Donc à partir de ce moment, il est acté que l'Espagne devient une puissance de second
rang, division, ouais.
A perdu complètement toute légitimité à prétendre à exercer un rôle important au sein des concerts de nations. Qu'est-ce que tu as dit, toi, rétrocédant? Deuxième, troisième division?
Ouais, deuxième division.
Ok, troisième division, d'accord. Donc ce que je veux dire par là, DH, quoi, division d'honneur. Et ce que je veux dire par là, à partir de ce moment-là, vient, avec Napoléon, puis sa défaite, s'imposer un des mouvements. Alors, j'ai du mal à dire qu'il s'agisse d'un mouvement littéraire, parce que c'est bien plus que ça, c'est bien plus fondamental que ça, c'est ce qu'on appelle le romantisme. Le romantisme, encore aujourd'hui, a imposé sa vision du monde à tous. J'imagine que tout un chacun, si je posais la question, où aimez-vous passer vos vacances? La plupart des gens répondent, quand ils sont normalement constitués, soit la mer, soit la montagne. Et évidemment, ça, c'est une vision qui vient du romantique, parce que pendant très longtemps, on déteste la mer, zone dangereuse de pirates, avec des marécages, la malaria, etc., etc. Vision qui reste au Maroc pendant tout le temps du protectorat, même un peu
bien
avant.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
On n'aime pas trop, on n'aime pas trop la mer. Et ensuite, la montagne, hein, peuplée par des populations qu'on considère comme demi-humaines, les montagnards avec plein de bêtes sauvages. Donc, c'est un petit peu ça l'idée.
Et dans... Attends, on va rester là-dessus. Déjà, la question, où est-ce que vous voulez passer vos vacances?
Il faut que les gens aient des vacances.
Exactement, voilà. Elle est déjà une autre période, quoi. Elle est une période où la mer est moins dangereuse.
Non, j'imagine. Parce qu'on parle à l'époque, ça date de cette époque. Encore une fois, on revient sur l'idée que le 19e siècle impose la modernité monde. Il y a deux éléments. D'abord, ce qu'on appelle le grand tour, qui concerne, c'est vrai, uniquement l'élite de la société, les nobles ou les grands bourgeois, qui commencent à voyager dans un esprit très particulier qui est celui.
Dépaysement.
Pas exactement, plus que ça, ça va au-delà.
C'est le ravissement.
Deviens ce que tu es. Hein. Connais-toi toi-même.
Donc, confronte-toi à l'autre.
Donc, et pour ça, il faut se confronter. Et l'autre, bien sûr, dans ce cadre-là, n'est qu'un moyen. Hein, réduit un peu au niveau d'objet. Et en plus de ça, ce voyage, souvent, permet de faire un voyage dans le temps. C'est-à-dire que l'Europe, à ce moment-là, accélère le rythme. On va passer très vite au monde de la révolution industrielle que caractérise la vitesse, la rationalisation économique, vous voyez tout ça.
Mais la froideur, hein, la froideur.
Et ça, la froideur.
De l'économie et des calculs.
Et puis, voilà, un horizon gris, sans perspective, c'est toute l'idée de la littérature, vous voyez, de Stendhal jusqu'à Baudelaire, etc. L'ennui, le bourgeois, tout ce qu'on déteste.
Et une froideur,
tout
ce qu'on aborde. Un manque de mysticisme.
Voilà. Et l'idée que, en voyageant, si on a les moyens, on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire aller se découvrir soi-même et voyager dans le temps. Et le voyage, c'est toute l'histoire du voyage de la Croix au Maroc, bien sûr, en 1832.
Oui, mais on trouve les mêmes éléments dans les voyages des hippies des années 60. Hein.
Oui, bien sûr. Un peu moins, quand même, route, c'est une petite proportion gardée. Mais je crois aujourd'hui.
C'est-à-dire
qu'on va à la recherche d'endroits qui seraient des sortes de conservatoires d'archaïsme. À travers une sorte de
time capsule, de musée.
C'est-à-dire, soit on va chercher le Moyen-Âge avec ses valeurs, la chevalerie, l'honneur, la générosité, c'est-à-dire un endroit qui est l'exact opposé des règles régies donc par l'offre et la demande.
Mais ça, c'est le Maroc.
La rationalité économique. Ça, on peut le trouver dans cet Orient de proximité qu'est le Maroc. Et c'est bien sûr tout ce qui fait de l'attrait du Maroc, de la Croix.
Parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, hein, si je synthétise. Il y a le romantisme, qui est une sorte de mise en avant de, des émotions, de la nature, de
passions. Ouais. Oui, alors j'ai oublié de dire, ouais. Parce que le romantisme, c'est très large. On a déjà commencé à évoquer des noms de grands romanciers, mais aussi, attention, il y a une sous-composante, un élément constitutif essentiel de ce romantisme, qui est l'orientalisme, qui n'est pas tout à fait confondu avec, qui est cet attrait de l'Orient. Alors, tout le monde connaît sans doute les théories de l'Américain palestinien Edward Said, évidemment, comme quoi l'Orient serait une construction de l'Occident et juste l'autre côté du miroir. C'est sans doute peut-être vrai, c'est une hypothèse de travail quand même peut-être vérifiée jusqu'à un certain point, bien que âprement discutée encore aujourd'hui. Mais, bien entendu, l'orientalisme avait commencé un peu avant, déjà, à la fin du règne de Louis XIV, avec la traduction des Mille et Nuits. C'est-à-dire que cette part d'ailleurs, cette part d'exotisme, eh bien, elle est extrêmement recherchée par les élites européennes et ensuite par le reste, hein, et elle crée un véritable engouement pour l'autre. On va chercher cela, et c'est ce goût pour l'oriental, considéré comme l'exotique, et ce qui permet de sortir d'une sorte de prison, de carcan, qu'est la vie moderne, et de façon croissante, de façon crescendo, entre le 18e et le 19e siècle. Hein. Évidemment, Chateaubriand, quand il va en Orient, eh bien, il passe d'abord par l'Andalousie, par l'Ambra, et puis plus tard, en Orient, il rencontre des chirs bédouins, arabes, il peut faire du cheval, il peut s'exprimer, il peut... Vous voyez, l'idée que de noble à noble, on parle la même langue, on partage les mêmes valeurs. Et là, on retrouvera un peu, comme tu dis, ce paradigme plus tard avec des Lyautés ou un certain nombre d'acteurs du protectorat, Henri de Castres ou les autres.
Il y a les écrits de Chateaubriand qui sont très, très...
Le Voyage en Orient, très
bien. Ils sont absolument révélateurs de tout ce que tu décris. Je vais lire un bout de...
Alors, bien sûr, Chateaubriand s'est intéressé à ce Voyage en Orient, mais il a aussi, si vous voulez, romancé la chose et écrit des... bon, bien sûr, l'immense auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, qui est un témoignage absolument extraordinaire sur son époque, sa vision très particulière. Hein, vous voyez, il est tout jeune, il veut déjà se suicider, 15-16 ans, c'est un éternel insatisfait, c'est un éternel décalé par rapport à la réalité qui ne lui convient absolument pas, qui ne lui conviendra jamais, jusqu'au bout. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'évocation d'un Andalous perdu, d'une terre qui n'existe plus, suscite pour lui, comme nulle part ailleurs et comme jamais, des fantasmes qui mettent son imagination en mouvement, qui mettent son imagination en branle.
Et il y a un bâtiment qui symbolise parfaitement cette fascination que tu décris, c'est l'Alhambra de Grenade. Je vais lire un petit bout de Chateaubriand. Voilà. L'azur du plus beau ciel se montrait entre des colonnes qui soutenaient une chaîne d'arceaux gothiques. Les murs chargés d'arabesques imitaient à la vue ces étoffes de l'Orient que brode dans l'ennui du harem le caprice d'une femme esclave. Quelque chose de voluptueux, de religieux et de guerrier semblait respirer dans ce magnifique édifice, espèce de cloître de l'amour, retraite mystérieuse où les rois morts goûtaient tous les plaisirs et oubliaient tous les devoirs de la vie.
Je te prie de croire que n'importe quel lecteur lambda qui lit ça,
ah ouais,
signe de suite. Ah ouais, il va voir.
Ah ouais. Il en vit la vie. Là. On parle de ces rois morts qui goûtent les plaisirs et oublient tous les devoirs de la vie. On est raccord avec les tableaux des harems.
On est dans du Ingres, du Delacroix, ouais, c'est-à-dire tous les peintres qui ont magnifié et cherché à magnifier l'Orient, même de façon un peu ambiguë. Bon.
Alors, il n'est pas seul. Hein. On peut parler de Hernani, on peut parler de...
Victor Hugo, oui. Et bien sûr, Washington Irving, qui est véritablement...
Alors lui, je ne connais pas.
Washington Irving, c'est celui qui a écrit « Les Contes de l'Alhambra ». Mmh. Donc, on est dans les années 1826, hein, par là. Lui, c'est un diplomate américain qui vient faire, sur le modèle des élites européennes, ce qu'on appelle le Grand Tour, et qui va venir s'installer, qui va devenir complètement amoureux de l'Alhambra. D'accord. C'est lui qui va être véritablement à l'origine de cette mode. Et vous savez, je disais tout à l'heure, le 19e siècle fonde notre modernité. Mais si aujourd'hui l'Alhambra, alors j'ai les chiffres juste avant Covid, hein, aujourd'hui je ne sais pas, mais on ne doit pas être très loin. L'Alhambra était le deuxième monument le plus visité d'Europe.
Donc la fascination continue.
La fascination continue et elle s'est en plus massifiée. Elle est devenue véritablement un phénomène de masse.
Alors, l'Andalousie, dans ce monde-là, si je résume un peu ce que je comprends, est une sorte d'Orient de proximité.
Oui, de vestibule de l'Orient. C'est-à-dire, c'est un Orient. Alors là, les communications sont facilitées, surtout à partir de l'introduction de ce qu'on appelle en arabe le babbor, c'est-à-dire là, les bâtiments à vapeur qui permettent de. Et aussi les diligences et bientôt le chemin de fer à partir des années 1860. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les communications sont facilitées de plus en plus et permettent de réaliser ce voyage à bon compte. Alors même que, par exemple, le Maroc, exception faite de Tanger, jusqu'au début du XXe siècle, il est extrêmement problématique et difficile de voyager au Maroc. Donc évidemment, à la rigueur, c'est Alger qui joue ce rôle-là. D'où le fait que, par exemple, Marx séjourne à Alger à la toute fin.
Karl Marx.
Ah, d'accord. C'est le barbu, tu sais, qui a écrit. Bien sûr, à la toute fin de sa vie, va séjourner à Alger. C'est-à-dire qu'on a une espèce de diptyque Alger-L'Alhambra, un petit peu qui s'installe dans ces années 1850-1860 environ.
Alors, ça, c'est la fascination un peu. On est en train de parler de l'extérieur, mais les Espagnols eux-mêmes vont intégrer l'Andalousie à leur roman national, à leur histoire.
Alors, il faut bien voir que s'ils l'intègrent, c'est parce que. D'abord, les Français l'intègrent.
Alors, explique-nous ça, voilà, justement. Parce qu'on a parlé, parce que tu faisais Chateaubriand, etc., dont on parlait. Ouais. Victor Hugo, Carmen, on n'a pas parlé de Carmen. Alors, c'est pas une mort, mais parce qu'il faut rajouter les gitans dans le film. Hein.
C'est ça.
Ils font partie aussi du film.
Parce que.
La corrida,
forçant un peu le tri. Ils incarnent ces anti-modernes, l'anti-modernité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une forme de rationalité, de logique qui leur est propre. Qui est très différent du reste de l'Europe, et pour qui,
c'est la liberté,
c'est comme ça qu'on le perçoit, qui écoute du flamenco, voit bien que les origines européennes, chrétiennes ou latines de l'Europe, ça ne fonctionne pas tellement bien avec le flamenco. Vous voyez, il y a quelque chose, tout de suite on perçoit ça comme quelque chose de radicalement différent, qui n'a rien à voir.
Aujourd'hui, quand on a envie d'imaginer les deux pôles, disons, qui seraient les plus éloignés dans le continent européen. Tu aurais, d'un côté, je parle vraiment de mythes et stéréotypes, tu aurais le Scandinave ou l'Européen du Nord qui est organisé, etc. On est dans le cliché, hein, j'insiste bien. Et de l'autre côté, tu vois, si tu devais chercher l'extrême inverse, bah, tu le trouverais dans cette sud de l'Espagne. Prendre un gitan ou un espagnol un peu excité, plein de...
Oui, le passionné.
Voilà. Qui excessif, qui va...
Tout à fait, dont les réactions sont imprévisibles. Dans les deux sens, c'est-à-dire autant une générosité folle que des accès de violence irrepressibles. Dire que d'abord, du moment où jusqu'au à la fin du 15e, 16e siècle, le luxe est musulman... Les souverains espagnols, enfin, qui gouvernent l'Espagne, comme Charles Quint, puis ensuite quelques... habitent volontiers l'Alhambra, quitte à le réaménager, à créer un palais de la Renaissance qui établisse une comparaison entre les deux. Mais progressivement, l'Alhambra va être totalement, au XVIIe siècle, totalement abandonné. C'est un bâtiment du passé, un bâtiment d'un passé dont on ne veut plus entendre parler, qui ne permet plus non plus d'évoluer... Au XVIIe, extrêmement... luxe, je veux dire, incomparable avec le reste, comme avaient été les palais longtemps arabes de Saragosse ou de Tolède, qui ont été conservés pendant très très longtemps, après la conquête chrétienne. Là, ce n'est pas le cas. Et le premier à avoir réinvesti l'Alhambra, c'est le gouverneur français qui occupe militairement le sud de l'Espagne, qui est en guerre... napoléonien. Et d'ailleurs, en partant, il a le projet de dynamiter la totalité de l'Alhambra.
Ah, quelle bonne idée.
il a dynamité une partie quand même. Il y a une partie qui à ce moment-là a disparu. Alors, il a eu la bonne idée de ne pas tout dynamiter comme tu le dis. Sinon, on n'en parlerait pas alors qu'il est là aujourd'hui. Mais donc, c'est dans cette suite-là, dans ce cadre-là, pendant tout le 19e siècle, l'Espagne, à partir de l'occupation française, en fait, rentre directement et ouvertement à plusieurs moments de son histoire en guerre civile. C'est-à-dire qu'on a un conflit âpre entre, d'une part, ceux qui veulent la modernité, ceux qui veulent réformer ce pays qui est en retard. C'est comme ça qu'on le voit à cette époque-là, et qu'on appelle, on les appelle les afrancesados, c'est-à-dire les francisés, ceux qui veulent appliquer le modèle français, ceux qui veulent moderniser, ceux qui veulent, entre guillemets, occidentaliser.
Donc, c'est-à-dire république, laïcité, tout ça.
Voilà, laïcité contre l'Église, et de l'autre, les conservateurs, incarnés notamment dans le camp carliste, qui veulent au contraire le clergé, le catholicisme, et qui procèdent par utopie régressive, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir à l'Espagne du siècle d'or.
Ouais, de Cortés, quoi.
Voilà, donc évidemment, ces deux parties ont une vision de l'histoire totalement opposée. Hein. C'est-à-dire que les afrancesados, donc les modernistes, j'ose pas dire de la gauche, Parce que ce serait, ouais, ce serait clair, franchement, ils veulent les premiers à partir des années 1820. Et ça avait commencé un peu déjà à la fin du XVIIIe siècle dans les cercles maçons, très aussi francisés. Eh bien, veulent une intégration d'Al-Andalus au roman national. C'est-à-dire que Al-Andalus devienne une partie
de l'Espagne, de l'histoire de l'Espagne.
Constitutive de l'histoire de l'Espagne. Une histoire dont on puisse... Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intégration au roman national? Ça veut dire une histoire dont on puisse s'enorgueillir, dont on puisse tirer fierté.
Ouais, on récupère.
Et fierté aussi pour soutenir, à ce moment-là, c'est le problème, la comparaison avec la France et son histoire. En disant que l'Espagne, déjà au Xe siècle, vous voyez, Cordoue a une histoire au moins aussi longue, en fait plus longue et plus glorieuse que le grand voisin du nord des Pyrénées.
Oui, mais il y a un paradoxe dans cette posture intellectuelle. Puisque, donc, intégrer une sorte d'Espagne musulmane, l'Espagne s'étant même construite contre justement les musulmans, j'ai envie de dire.
Oui, c'est la première fois qu'on va contre ça.
Voilà.
Et attention, à ce moment-là.
Il n'y a pas d'Espagne, en fait.
Vous avez un grand mouvement en Europe qu'on appelle la révolution scientifique, qui voit émerger toutes les sciences humaines, qui vont pas tarder à émerger, la sociologie, l'ethnologie, et bien sûr, au centre et au cœur, l'histoire. Et à ce moment-là, la France, du fait des besoins induits, notamment par la conquête de l'Algérie, et aussi parce qu'elle possède, le mot est inventé à Paris quand même, orientalisme, dans les années 1820, les meilleurs arabisants du monde, et parce qu'on a, à partir des langues orientales, donc il y a la grande école où on enseigne l'arabe et les différents types d'arabes, dès cette époque-là, eh bien, vous avez des spécialistes de l'histoire, et le mot date vraiment de cette époque, de l'Espagne musulmane, qui vont écrire en français l'histoire musulmane de l'Espagne. C'est notamment Reinhard Dozy, qui est un Hollandais, mais qui écrit en latin et principalement en français, qui va définitivement acter la naissance de ce terme. Et elle est reprise aussi par un certain nombre de membres du monde académique espagnol à partir des années 1850-1860 à peu près. Donc on est à la moitié du 19e siècle. Et bien sûr, cette intégration d'Al-Andalus au roman espagnol, elle va être toujours discutée. Elle ne fera jamais l'objet d'un consensus.
En
Espagne, il y a encore aujourd'hui ceux qui estiment que les Espagnols, enfin les ancêtres supposés des Espagnols, ont bien fait d'expulser ceux qui n'avaient été en fin de compte que des envahisseurs, et les autres qui considèrent que Al-Andalus a été un grand moment de civilisation, digne qu'on s'y intéresse, digne d'être étudié, d'être enseigné, et évidemment les deux parties restent irréconciliables. Alors ce qu'il faut noter, c'est que parfois les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, notamment à cause du conflit entre la France et l'Espagne, donc des conflits, des rivalités entre la France et l'Espagne autour de l'enjeu que représentait le Maroc. En effet, les Espagnols, pour avancer des arguments contre les Français, pour coloniser en fait le Maroc, vont affirmer une légitimité, on a une légitimité particulière, parce que nous avons en notre sein l'histoire d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, et donc
nous sommes
tout à fait en légitime, droit, nous sommes légitimes, et inversement, à partir de Lyoté, qui détestait plus que tout l'Espagne et les Espagnols, en plus de ça, il pensait que l'occupation du nord de l'Espagne avait été imposée dans le cadre d'accords entre la France et l'Angleterre pour faire en sorte que le nord du Maroc, et notamment Tanger, ne soit pas entre les mains des Français, dont les Anglais se sont finalement toujours méfiés jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce qu'on appelle le syndrome Fachoda. Le syndrome Fachoda, c'est le syndrome chez les Français qui, dès qu'ils voient un coup bas ou dès que ça tourne mal, ce sont les Anglo-Saxons. Ouais. C'est la paranoïa française. Et Lyoté est complètement dans ce syndrome Fachoda, je prie de croire. Et
donc, la perfide Albion.
La perfide Albion, et surtout après la fin de la Première Guerre mondiale.
Parenthèse, tu sais où est-ce qu'on sent beaucoup des résidus de cet esprit-là? Parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre, dans les matchs de rugby, tu as toujours l'impression, entre la France et l'Angleterre, ils utilisent des armes qui relèvent de la diablerie pour gagner des Français qui ont un rugby romantique et très beau. Voilà. Ouais, ça existe encore.
C'est le seul moment où on cherche encore à botter l'anglois au dehors
de l'Empire.
En dehors de l'Empire, c'est le moment des matchs de rugby, tu as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la sortie de la Première Guerre mondiale, la France est devenue une puissance ultra prépondérante. Momentanément, ça va pas durer longtemps, ça va s'arrêter dans les années 20, mais du coup Lyoté, dans le cadre de ce que j'appelle moi le Qualb, c'est-à-dire les coups bas, va faire en sorte d'aider les Rifains
Bien sûr.
Et bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de ce moment-là, Lyoté qui veut une forme de rapprochement entre savoir et pouvoir, notamment il crée l'Institut des hautes études marocaines en 1920, où il amène un peu tous des jeunes talents, qui viennent d'univers très différents. Notamment, il amène le jeune Évariste Lévy-Provençal, qui est à l'origine un spécialiste de l'histoire romaine, de l'histoire antique de l'Afrique, et qui va devenir un médiéviste, et qui va écrire sans doute ce qui est considéré comme le plus grand ouvrage sur l'histoire d'Al-Andalus au XXe siècle, en tout cas le plus diffusé, sans aucun doute le plus apprécié aussi, qui est l'histoire de l'Espagne musulmane au Xe siècle. Et vous avez une partie photo, à l'époque on intègre des illustrations, et vous avez quoi? Vous avez des photos de fesses dans les années 20, et il y a marqué dessous la légende, regardez, c'est comme Cordoue, Xe siècle.
Oui, bien
c'est-à-dire
sûr.
Que du point de vue marocain,
bien sûr.
C'est-à-dire des autorités françaises au Maroc, pour être plus précis, eh bien, le Maroc, c'est une sorte de grand Andalous qui aurait survécu.
Ouais.
Et preuve en est, c'est que quand Lyoté fait construire sa résidence, enfin son lieu où il travaille à Rabat, qui est aujourd'hui le centre du ministère
de l'Intérieur,
voilà ce que je voulais dire, de l'Intérieur, il a fait construire une réplique de l'Alhambra à l'intérieur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a là-bas ce qu'on appelle le Generalife, Jannat al-Arif, qui est la partie haute de l'Alhambra qui a été reproduit du coup et qui sert aujourd'hui de base, si je puis dire, au ministère de l'Intérieur du Maroc à Rabat.
Alors, ça va loin, puisque dans l'esprit de Lyoté, si j'ai bien compris, on va, jusqu'à l'excès parfois, coller le qualificatif andalou à tout ce qui est perçu comme à peu près raffiné ou structurellement un peu travaillé. C'est-à-dire que, moi je m'intéresse beaucoup à la musique, c'est clair, et je suis toujours surpris à chaque fois que je vois les descriptions des premiers visiteurs du 19e siècle ou parfois même militaires qui sont souvent amenés à fréquenter des Marocains, à écouter leur musique, ils ont une vision horrifiée de ce qu'on propose, jusqu'à dire qu'il y a un problème même de sens du rythme, ce qui est techniquement une hérésie, je peux te le dire. je ne reculerai pas là-dessus. Par contre, dès qu'on arrive à ce qu'on appelle chez nous l'Ella, et que les Français ont appelé la musique andalouse, elle va être affectée à l'Andalousie. Alors, je ne sais pas si elle était jouée en Andalousie, mais c'est clair que son côté un peu savant, de musicien assis, un peu, voilà, avec des cordes, etc., un peu plus travaillé, va donner l'idée que ça ne peut venir que d'Europe, alors que d'après ce que tu nous disais avant le début du podcast, il est très probable que ce ne soit pas cette musique qui a été jouée en Andalousie, quoi.
Alors, ce n'est pas mon avis à moi. Bon, déjà, dire que attribuer tout ce qui est raffiné et somme toute, tout ce qui est noble à l'Andalous, c'est parce que l'Andalous est positivement connoté depuis l'époque romantique. Et une thèse très récente, soutenue par Alexandre Abil sur l'histoire de la musique d'Al-Andalus, à partir de l'iconographie notamment, une démarche originale,
ouais.
Eh bien, elle soutient que finalement, de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît de la musique d'Al-Andalus, notamment grâce au livre d'Alphonse X, donc qui a écrit un livre consacré en partie à la musique.
Alphonse X.
Alphonse X de Castille.
D'accord.
Oui, on est là au XIIIe siècle.
Ouais, hein. Parce que les Alphonses, c'est sérieux comme sujet.
je sais. Et donc, évidemment, Alphonse X, elle soutient que, par exemple, la musique, tout à la fois ce qu'on appelle l'Aetra ou la musique du Moyen Atlas, est sans doute plus proche du genre de musique que l'on pouvait entendre en Al-Andalus que ce que l'on considère aujourd'hui comme étant l'Andalousie, le Gernaté, etc., ou le Maalouf en Tunisie, par exemple.
Ouais. Donc on a compris un peu l'histoire de la représentation d'Andalousie. Maintenant, si on s'intéresse au côté religieux, on a aujourd'hui, on a grandi, nous, Marocains, l'éducation marocaine, dans l'idée que, également, l'Andalousie n'était pas seulement un âge d'or en termes de production scientifique, confère Notofeil, Noroche et compagnie, même cette musique, même si peut-être ce n'était pas l'image qu'on a, mais également...
Alors peut-être quand même dire un mot sur, à mon avis, ce qui est l'aspect le plus prégnant du legs, c'est-à-dire de l'héritage andalousi au Maroc, qui a été l'écriture. L'écriture dans sa dimension technique.
Ah oui, d'accord.
Technique.
Comment on écrit,
c'est-à-dire ce qu'on appelle le Khatl Mghrebi. Qui était, attention, jusqu'aux années 60, la seule façon au Maroc d'écrire l'arabe. Tout le monde peut-être sait ce que c'est-à-dire un fa avec un point dessus, un kef avec un seul point, avec un kef qui était tout à fait presque rectangulaire.
Serpentin.
Ouais. Oui, monsieur. Serpentin, c'est ça que c'est. Ouais. Donc évidemment, vous voyez, une forme d'écriture qu'on appelait l'école coranique. Évidemment, ça vient directement d'Al-Andalus, qui justement avait fait le choix de conserver une graphie sciemment archaïque. Archaïque pourquoi ? Parce qu'elle vient directement de la plus ancienne forme de graphie arabe, de langue, une fois l'arabe devenu langue officielle, c'est-à-dire langue de l'administration, langue de la cour, langue du pouvoir, à partir des Omeyyades de Damas, avec la réforme, ce qu'on appelle la réforme de Abd al-Malik dans les années 690, eh bien, Al-Andalus, par choix, pour bien marquer son indépendance vis-à-vis du pouvoir des Abbassides, donc qui viennent prendre le pouvoir par la force dans les années 750, ont conservé ce Khat al-Kufi, donc écriture koufique, Koufa étant une des villes création ex nihilo arabes, où ils ont pu créer, tout à fait structurer la religion, la langue devenue langue d'expression de ce qui est officiel, de l'ordre de l'officiel. Et évidemment, vous voyez bien comment c'est un peu ces méandres dans un axe Orient-Occident, Al-Andalus, et dans un centre Nord-Sud d'Al-Andalus vers le Maroc.
Alors, on a parlé de l'écriture, moi je vais parler de religion. Je vais parler de religion parce qu'aujourd'hui, il y a un discours, évidemment, le sujet des religions, de la capacité d'une religion dominante à accepter une religion dominée, dans quelles conditions, etc. C'est, politiquement, c'est quand même très, un sujet très important aujourd'hui. À cause de la mondialisation, à cause de, bon, bref, de l'immigration, à cause des conflits qu'on dit de civilisation aujourd'hui, on présente l'Andalousie comme étant un moment un peu miraculeux de cohabitation. Je sais que le mot tolérance n'est pas complètement.
Alors en Espagne, le mot entre guillemets politiquement correct, c'est celui de convivencia, qu'on a récemment, mais vraiment ça date du siècle dernier, traduit en arabe sous le nom de ta'ayush silmi ou ta'ayush
tout court. Cohabitation de
pacifique.
On a envie de dire aujourd'hui avec un néologisme, une sorte de vivre ensemble quoi. Alors dans quelle mesure cette représentation qu'on a de cette période est exacte ? Est-ce qu'on est dans un mythe ? Est-ce qu'on est dans une fabrication politique ou marketing ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que je viens de dire ?
Alors d'abord, il faut préciser que retourner vers le Moyen-Âge, c'est accomplir un grand voyage. C'est une période qui est très, très, très différente de la nôtre. On voit le monde sous un angle que l'on a peine à concevoir aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que les pouvoirs musulmans, généralement, n'ont pas imposé de conversion forcée. Ça, c'est certain.
C'est factuellement politique.
Mais je veux dire par là, le fait de supporter l'autre ou même d'accepter l'autre, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire qu'on l'accepte souvent comme un mal nécessaire. Mais on pense qu'il est,
dans l'erreur.
Qu'il est dans, non seulement dans l'erreur, mais qu'il est condamné à mourir dans les flammes de l'enfer.
Oui.
Que son âme ne sera pas sauvée. N'oubliez pas le tout religieux. C'est pas le tout religieux sur un plan, comme on le vit aujourd'hui, parfois, sur un plan identitaire. C'est plus vraiment dans une...
C'est concret.
Et c'est oui, enfin, concret. On pense qu'on va mourir tous et qu'il faut coûte que coûte sauver son âme. Après, il y a le rapport de la collectivité. Alors, non, d'abord dire aussi qu'on a affaire à des collectivités. L'individu n'existe pas vraiment au Moyen-Âge. Hein. C'est, on a des communautés les unes par rapport aux autres. C'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut naturellement l'appréhender. Mais on a des moments de tension, par exemple, à un moment donné, contre les communautés juives, par exemple à l'époque Al-Mouhad,
avec l'habit noir.
Incontestablement. Non, mais même où on a cherché à détruire les communautés juives.
Oui. Bon. Bah, et les défenseurs des Al-Mouhad, on en connaît un, nous expliquent que ça il ne nie pas du tout ces périodes-là, mais il est lié à des contextes.
Oui, non. Il faut toujours, je lui donne 100% raison, mais il faut contextualiser les choses.
Il faut quand même se rendre compte de ce qu'on demande aux historiens, c'est compliqué. On leur demande de résumer plusieurs centaines d'années avec une réponse oui, non, tolérance, pas tolérance, sur plusieurs centaines d'années. Hein. Regardez ce qui se passe déjà à notre échelle sur quelques dizaines d'années.
Non.
Et voilà comment les choses changent entre les années 40, 50 et aujourd'hui. Donc, cette construction, est-ce qu'elle porte une part de vérité ? Dans quelle période ? Oui, non ? Politiquement, est-ce qu'il y avait la possibilité d'exercer un culte, j'ai envie de dire, minoritaire ?
Pour qu'il soit minoritaire, il faut qu'il soit...
Réalité qui a été, réalité qui a été effacée dans la période suivante. Vu que
minoritaire, il faut qu'il soit reconnu.
Voilà.
Par exemple, c'est clair que dans l'Andalous du XIe siècle, on peut être juif ou chrétien, mais on ne peut pas être chiite, par exemple. Ça, c'est radicalement impossible.
D'accord.
Donc, après, ça dépend. On a des cas de, par exemple, Ibn Haytham, au XIe siècle, etc., qui a sans doute été un penseur de l'athéisme, où il finit brûlé. Ils ont mis le temps avant de le brûler, etc. Mais de là à parler de tolérance, véritablement, je me défie de l'instrumentalisation, de l'instrumentalisation politique de l'histoire, qui a tendance à projeter nos problématiques, nos fantasmes, sur le passé. Je pense que le passé est exigeant et évidemment, il demande comme le fait mon illustre collègue historien, un défenseur des Almohades, eh bien, qu'on contextualise les choses, qu'on voit à quel moment Ibn Maymoun, Maïmonide, qui sert les Almohades, après qui décide qu'il n'y croit plus ou qui est poussé vers la sortie, qui s'exile. Vous voyez, ça dépend des moments.
Ça dépend des moments, mais moi je ne compare pas dans les référentiels qu'on a autour de nous, je compare aux référentiels de l'époque,
En tout cas, l'utilisation. Voilà. Alors, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que.
Parce qu'on pouvait
à l'époque du franquisme, comme Franco vient du Maroc, il y a eu toute une histoire d'Al-Andalus et du franquisme, qui a été totalement valorisée, mise en avant, et qui est devenue presque idéologie d'État. D'accord, avant qu'elle soit reprise par la gauche dans les années 70-80. Hein. Et évidemment, ce que je veux dire par là, avec notamment sur l'imitation du modèle français au Maroc, hein, du protectorat français, l'idée de créer une sorte d'institut des hautes études marocaines à Tétouan, hein, Tétouan, et de faire à l'époque de Mohamed Ben Taouit ou des gens comme Abdelkhader Torres, les chevilles ouvrières ou les courroies de transmission politique pour Torres et plus savante et académique, philologique pour Ben Taouit, où on a mis en avant un Al-Andalus tolérant, de la convivencia, entendu que l'arrière-pensée de Franco, politique avant tout, c'était de dire aux Arabes, ben, nous sommes frères, nous avons toujours été amis. Alors même que, regardez, il y a la France, surtout la France de la 4ème République, qui est la France quand même d'une décolonisation ratée, au Maroc, avec l'exil du sultan, etc., avant les accords d'Aix-les-Bains, et surtout la guerre d'Algérie, le canal de Suez, l'idée que Gamal Abdel Nasser, Nasser, comme on l'appelle en France à cette époque-là, représente un peu le diable, hein, vous voyez. Et donc Franco fait une utilisation assez habile, somme toute, d'Al-Andalus, en invitant Taha Hussein et les élites égyptiennes à créer l'Institut islamique, des études islamiques, pardon, à Madrid, pour dire « nous sommes amis ouais. ». Alors aujourd'hui, c'est à front renversé, puisque la droite espagnole est très, très, très hostile à Al-Andalus, c'est le moins que l'on puisse dire, et la gauche est plutôt dans cette idée que tu as évoquée à l'instant, on se faisait des bisous, la convivencia, voilà. C'était génial, voilà. Quoi.
Tu me fais une passe décisive pour sans doute les dernières questions de ce podcast. Ignacio Olague, les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, sorti en 1969 ou 70. Ouais. Alors c'est un bouquin un peu raciste quand même, je l'ai lu.
Ah mais complètement. Oui,
ouais, voilà.
Bien sûr.
Mais quelle est sa thèse?
Lui-même était fasciste. Hein.
Donc que dit ce monsieur Olague là?
Olague, alors Olague c'est.
Olague.
C'est pas grave. Olague, c'est d'abord pas du tout un historien de formation. C'est un historien du dimanche, un historien amateur. Qui est francophone.
C'est ça qu'elle est bohème, quoi.
avec beaucoup moins de talent.
Ah, c'est gentil.
Mais, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il écrit d'abord son livre qui n'a aucun succès, qui s'appelle pas du tout, qui n'est pas connu sous le titre, tel qu'il sera plus tard diffusé. Le titre original, c'est Révolution islamique en l'Occidente. C'est ça, Révolution islamique en Occident. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de révolutions, voilà, et que la thèse principale de cet ouvrage, c'est que, à ce moment-là, les Arabes, il parle d'arabe, c'est la civilisation. Alors, une confusion, religion, civilisation, peuple, c'est une harira absolument inimaginable. C'est la plus avancée du monde. Et donc, très naturellement, puisqu'il existe, de son point de vue, un esprit du peuple qui est immortel, une essence du peuple, évidemment, les Espagnols, à ce moment-là, se sont convertis à l'islam. Parce que, évidemment, il voulait être à la pointe, il voulait être à l'avant-garde de l'humanité.
Lui
alors,
soutient,
alors cette théorie, personne n'y prête attention, aucun succès. Et là, il va voir, parce qu'il est très francophone, il parle très bien le français, il admire la France, etc. Il va voir celui qui est le plus grand historien du monde à cette époque, qui est Fernand Braudel. Hein, Fernand Braudel, c'est l'auteur de la Méditerranée au temps de Philippe II, qui a un ouvrage immense, encore très très admiré dans le monde, et surtout aux États-Unis d'ailleurs. Et alors Fernand Braudel, il faut savoir que Fernand Braudel était quelqu'un qui nourrissait à l'égard des Arabes, et surtout des Maghrébins, des sentiments que je qualifierais de peu amicaux. D'ailleurs, il a commencé sa carrière au sein de l'Algérie française. Sa femme était pied noir et il a commencé comme prof d'histoire là-bas. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez qu'à lire la Méditerranée au temps de Philippe II. Autant il admire les Ottomans, autant tout ce qui est maghrébin.
Et du mal.
C'est un peu dans l'esprit Marc Ferro, autre auteur d'origine pied noir, racontait que quand il était prof à Oran, il avait une classe, et vous savez, à l'époque, le programme d'histoire du collège, de la 5e, on parlait de la civilisation, en termes de l'époque, on parlait de civilisation arabe. Et paraît-il que quand il disait ça en classe, tout le monde explosait de rire. Quoi. Parce que de leur point de vue, civilisation arabe, oui, c'est un point de vue du contexte colonial algérien de l'époque, ça faisait rigoler tout le monde. Bon. Et ce que je veux dire par là, donc Olagoué, et c'est Brodel qui va lui donner l'idée d'un titre autrement plus vendeur,
funky,
autrement plus significatif. J'aime bien le terme espagnol, llamativo. Et un motivo, c'est, vous voyez, qui attire l'attention,
interpelle, ouais.
Qui interpelle. Ouais. Et donc, il va donner le titre « Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne ». Donc, évidemment…
Et vous le trouvez aujourd'hui dans la librairie.
Oui, oui, alors j'ai eu la surprise de le voir qu'il était à Calilé, à Rabat. J'étais assez surpris, je me disais, mais pourquoi une telle fraude,
lui, il présente
fraude historique, ouais, a pu non seulement exister, mais subsister et connaître encore un succès auprès du grand public. C'est pour moi, donc, j'ai consacré tout un chapitre dans mon dernier bouquin sur cette histoire-là, parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et il a eu une suite, en Espagne notamment, il a eu une suite comment ? Alors, il a eu une suite auprès, parce que là, il faut savoir que l'Espagne post-franquiste, ce qu'on appelle de la transition démocratique, il y a eu la loi...
Franco est mort en 75.
En 75, là, on est au début des années 80. L'Espagne a connu un processus de fédéralisation, une montée en puissance de l'autonomie des provinces, et l'Andalousie, donc, est devenue une province autonome, avec son parlement et une marge de manœuvre assez... Et donc, il y a tout un mouvement en Andalousie à ce moment-là pour dire, nous, on a une histoire qui est aussi arabo-musulmane. On est des arabo-musulmans, avec... D'ailleurs, c'est très étonnant, parce qu'ils ont pris le drapeau des Almohades, ils ont pris le vert et le blanc.
Ouais, ouais.
C'est très...
On peut voir Sergio Ramos l'exhiber à chaque
Ligue des Champions. Par exemple.
Qui est de Séville.
Oui, ouais, je sais. Ouais. Mais donc, évidemment, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est quand même une folie. Et Olagoué est devenu une sorte de symbole de cette Andalousie, etc., qui est en fait complètement hispaniolisée.
Alors lui,
comme membre, comme constituant à part entière d'une essence espagnole qui serait une essence, par définition, éternelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été romain, on a été d'abord ibère, romain, puis arabe, puis, etc., castillan, mais on est toujours resté nous-mêmes. Et en revanche, le mal absolu, c'est les invasions. Et de son point de vue, les vraies invasions, c'est les invasions almoravides. Alors ça, c'est le mal absolu.
Ouais.
Parce que là, des chameliers qui sentent mauvais, des morts, et avec tous les stéréotypes les plus racistes qui soient, évidemment, sont mis à condition pour dire « oui, là, on a été écrasés ».
Mais ce qui est drôle, enfin, c'est qu'il va jusqu'à présenter Taler, comme son nom, Tariq, comme Roderick, comme étant un...
Ah non, mais il n'a pas peur. C'est-à-dire, on y va. Je veux dire, toute méthodologie historique est passée par pertes et profits. Et évidemment...
C'était une...
C'est-à-dire, il me fait penser un peu aussi aux gens qui confondent tapisserie et pâtisserie. De son point de vue, c'est la même chose. On y va. Tariq, Roderick...
Oui, mais ça dit quelque chose, si tu permets. Ça dit quelque chose que ce livre soit diffusé et présent. Ça montre à quel point... L'énigme historique, je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve que cette énigme historique, ça montre deux choses. Hein. Ça montre que l'énigme historique continue de fasciner les gens.
Ouais.
Et ça montre également, alors là, je cherche une expression. Je ne sais pas qui est Juan Goytisolo.
Goytisolo, oui. C'est un romancier espagnol qui vient de mourir et qui a vécu pendant des années à Marrakech.
Bon, il est de quelle période ce bonhomme-là?
80. Ah, il vient de mourir là, il est mort il y a 3 ans, 4 ans.
Donc voilà, et cet auteur-là...
Juan Goytisolo.
Exactement. Invoque une blessure infectée et béante et parle de Tanger comme la cicatrice venimeuse de l'autre rive. Donc c'est pas réglé quoi.
Non, c'est pas réglé.
Voilà. Et c'est pour ça que ce bouquin...
Je vous prie de prendre en compte le fait qu'il a écrit ça depuis Marrakech.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est un énorme podcast, un double podcast. Je vous invite à écouter la première partie si vous ne l'avez pas fait, qui parle de l'Andalousie, et la deuxième partie qui parle de l'histoire de l'Andalousie. Donc merci beaucoup pour cette performance de très haut niveau, Mehdi. Si, gros match.
Merci beaucoup.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.